liberté, égalité, fraternité.
Une majorité de la société mise en esclavage.
Que l'argent public doit payer qu'une fois.
Et là, c'est la voix du peuple qui a parlé.
Revue de presse hebdomadaire.
De l'april.
So it is not just a free software problem.
Une volonté politique de prendre le contrôle du net.
Privatisation de ce bien commun.
Avec Luc, Manu et Nico.
Des mouchards dans nos ordinateurs.
Des coups de boutoir contre la neutralité du réseau.
Revue de presse de l'april, semaine 38, année 2015. Salut Manu.
Salut Nico.
Salut Luc.
9 articles.
On est chargé de chez chargé.
On
est même
sur la planche,
super
hein.
Charrette. Donc, ARCOP 21, une distribution faite par Microsoft, la guerre des brevets, le ministère de la Défense italien, des séries qui parlent d'informatique, le Bitcoin et sa gestion, l'Inde qui fait une distribution, l'école numérique, et pour finir, un article sur la gratuité, c'est le vol, qui est assez intéressant.
Rue 89, au CEAC, on puise des idées dans l'open source, un article de Catherine Merking. Donc le CEAC, je ne connaissais pas. En fait, ça n'a absolument rien à voir avec l'informatique, puisque c'est un truc d'art contemporain.
C'est des auteurs en fait, d'art contemporain qui, bah, soi-disant, récupéraient les idées de l'open source pour faire des œuvres d'art et se positionner en fait, par rapport à des valeurs du monde, etc.
Alors ça commence, semblerait, l'exposition avec des gyrophares pour montrer la surveillance, la société de la surveillance, qui sont des sujets qu'on aime bien, qui nous intéressent. Et puis, réutilisation de concepts qui sont mis en avant à COP21, parce que c'est une exposition qui est en lien avec la COP21. Donc c'est Art COP21, d'ailleurs, ce sujet-là. Mais effectivement, quand ils utilisent open source, c'est un petit peu buzzword.
Ouais, parce qu'on voit pas trop le lien dans l'article, c'est pas expliqué en tout cas. Ça fait pas mention non plus de l'art libre, hein, qui existe depuis un peu plus de 15 ans maintenant.
Et que tu adores, donc tu dois regretter qu'ils en fassent pas
oui,
mention.
Oui, oui, donc c'est genre hop, 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 on a trouvé un truc, on explique pas trop le lien, et puis ouais, ils ont surfé comme si rien n'avait existé avant, quoi.
Ils ont surfé sur la vague, en fait, un peu de toute l'actualité de logiciel libre pour faire des œuvres d'art en relation.
En tout cas, c'est ce que
mais
l'article.
Ça a l'air pas mal quand même.
C'est ce que l'article nous laisse comprendre, en tout cas. On sait pas ce qui se passe réellement là-bas.
Allez voir, et puis faites-nous un compte rendu, si vous voulez.
Ça serait pas mal. ZDNet, Azure Clouds, Switch, la distribution Linux made in Microsoft, un article de la rédaction.
Alors là, le troll énorme. Donc Microsoft, donc pour son cloud Azure, aurait fait une distribution Linux pour ses routeurs, en fait, pour son matériel de réseau. Et donc, ce serait entièrement du Linux derrière.
Donc c'est vraiment étonnant. Ça fait longtemps qu'on en parlait, genre un jour, Microsoft, ils feront du logiciel libre, ils feront leur propre distribution, parce qu'ils font du logiciel libre déjà depuis longtemps, en fait. Mais là, quand même, bah, c'est le pavé dans la mare. Quoi ? Microsoft fait une distribution, c'est énorme. Et ça a l'air d'être poussé même par le directeur actuel de Microsoft, qui est un Indien. Son nom ne doit pas être dans cet article, il doit être dans un article secondaire. Oui, les gars, hein, vous n'avez pas forcément lu tous les articles secondaires.
Il est là.
Et donc,
Kamala Subramaniam.
Alors, lui, c'est celui qui est en charge. Ce n'est pas le directeur de Microsoft, mais ce n'est pas grave. Ce qui est intéressant, c'est que, bah, voilà, ils acceptent que, techniquement, une distribution libre est mieux pour faire ce genre d'outils. Et donc, dans leur cloud, ils vont utiliser ce distrib. C'est vraiment sympa.
Mmh. Rappelons que Microsoft a fait un tournant vers le libre il y a quelques temps en disant Microsoft aime l'open source, parce qu'ils n'aiment pas quand même le logiciel libre, il ne faut pas abuser non plus. Et donc là, ils disent, bon ben bah voilà, on a changé notre fusil d'épaule, tout va bien. On aime bien rappeler qu'il y a quelques années de ça, Steve Ballmer, l'ancien patron qui est parti après finalement en échec, disait, le logiciel libre, c'est le cancer de l'informatique. Bon, manifestement...
Il appréciera.
01net, guerre des brevets, Apple pourrait exiger de Samsung qu'il retire 3 fonctions de ses smartphones, un article de Cécile Bolles.
Voilà, donc là, ça fait suite en fait au procès Apple contre Google.
C'est la relance
Samsung,
de la guerre des brevets. Voilà. Ouais.
La guerre des brevets, donc là, il y aurait 3 fonctionnalités des Samsung, avec bah, par exemple le déverrouillage en glissant, avec des corrections automatiques ou des liens rapides, donc qui concerneraient 9 modèles de téléphone, donc des modèles qui sont plutôt anciens, mais apparemment très utilisés aux États-Unis, et donc ils auraient l'obligation de retirer cette fonctionnalité de leur téléphone.
Voilà, donc on pensait que la guerre des brevets était finie, ou en tout cas qui était en voie de se calmer. Bon, ça touche des vieux téléphones, donc on peut dire que c'est peut-être la queue de la comète.
Ouais, mais s'il faut le retirer, ça va pas être pratique quand même.
Voilà. Donc bon, on verra si ça se poursuit ou pas. ZDNet, LibreOffice entre au ministère de la Défense, mais en Italie. Un article de la rédaction. Donc, on rappelle, en France, certains de nos ministères, et c'est le ministère de la Défense qui a commencé, a passé ce qu'on appelle un accord open bar avec Microsoft. Irlande, donc merci le contournement de la fiscalité française, par le ministère lui-même. Et bien, donc, il semblerait que ce soit pas nécessairement une obligation, puisque le ministère de la Défense italien fait exactement l'inverse.
Voilà, bah eux, donc ils annoncent se passer tout sous LibreOffice, donc en alternative à Microsoft Office qui était utilisé auparavant. Et donc, bah, tous les formats de fichiers standards, donc l'ODF, sont mis en avant. Donc ça évitera les vieux documents Word à se trimballer partout et qui ne sont compatibles avec à peu près rien sans perdre plein de choses dans les documents.
On rappelle, la Grande-Bretagne est sur le même pas, donc l'idée que c'était l'OTAN qui nous forçait, nous, le ministère de la Défense, à passer à des logiciels propriétaires, ça paraît prendre du plomb dans l'aile. On peut se mettre au libre dans les ministères.
Le Monde.fr surchauffe au pays de l'informatique. Un article de Macha Seri.
C'est un article un peu bizarre. On parle notamment de Seri, télévisée qui passe sur Canal+. Donc la série notamment Halt and Catch Fire, mais pas que dans ce qu'il présente ici. Et il présente des séries qui ont l'air de parler un petit peu du passé, des années 60, 70, 80.
Oui, donc ils disent que c'est un petit peu dans la lignée de Mad Men, ce genre de série à portée historique, mais d'une histoire assez proche, et qui sont bien documentées. Et là, ça se passe dans les années 80, et sur l'histoire de l'informatique de l'époque.
Ouais, et puis donc ça montre bien qu'en fait, au début, l'informatique était censée être libre, enfin, était construite sur des systèmes libres, avec tout était ouvert, les gens pouvaient collaborer vraiment comme ils avaient envie dessus.
Et copier.
Et puis malheureusement, il y a les grosses boîtes privatrices qui sont arrivées, qui ont, eux, bien copié comme il faut, mais en refermant, en prenant bien soin de bien refermer derrière. Et puis ça donne l'informatique telle qu'on la connaît aujourd'hui, avec du privateur tout partout.
Moi, j'apprécie le fait que les médias, et des grands médias, hein, des séries américaines, qui vont être diffusées, espérons-le, à grande quantité, prennent notre point de vue, se mettent un peu contre ce qu'on appelle la propriété intellectuelle de manière un peu idiote, on peut apprécier quand même.
Moi, je dis qu'il faut quand même attendre de voir ce qu'il y a dans la série. Hein. Si ça se trouve, ça va être juste une justification sur le fait qu'il fallait plus de propriété et que s'il y en avait eu, ce serait pas fait ratiboiser par ces grosses boîtes. Autre point intéressant que cite l'article, c'est qu'il y a deux rôles qui sont des rôles de femmes, qui rappellent qu'au début de l'informatique, c'était un métier très féminisé et que ça s'est déféminisé en quelque sorte au cours des années 80-90, alors qu'au départ, voilà, il y avait beaucoup de femmes dans le milieu. Bon, en tout cas, on est assez curieux de voir ce qu'il va y avoir dans cette série et comment ce sera traité. Le sujet risque d'être intéressant.
Abonnez-vous à Netflix.
Wow.
Le fouet. Contrepoint, qui gère le Bitcoin ? Un article de Gérard Dréhan.
Alors ça se termine par un point d'interrogation, mais ce n'est pas un article à troll, non, c'est un article pédagogique qui explique de manière assez poussée le Bitcoin.
Voilà, donc ils reprennent tous les fondamentaux du Bitcoin, donc ça va vraiment assez bas en fait, comment ça marche, comment c'est réparti, comment c'est calculé, la manière dont on va se mettre d'accord sur les transactions, puisqu'il n'y a pas de livre central en fait, donc c'est vraiment tout est calculé, distribué, et donc ça explique vraiment tout dans le détail, donc l'article est très long, je vous laisse le lire parce que on peut pas le résumer comme ça.
Alors il est très long, mais il n'y a pas de notion technique derrière, hein. C'est-à-dire que moi qui ne suis pas informaticien, j'ai parfaitement compris de quoi ça parlait. Alors c'est pas nécessairement facile parce qu'il y a des mots, enfin du nouveau vocabulaire, etc. Donc c'est quand même un article qu'il faut s'accrocher, mais il est tout à fait compréhensible quelqu'un qui n'a pas de notion technique.
Et ce qui est génial, c'est le titre, le met en avant, c'est « Qui gère le Bitcoin ?» Et là, il n'y a pas de gestionnaire du Bitcoin, c'est du logiciel libre. Donc ça fonctionne par une forme de consensus, s'il y a des nouvelles versions, s'il y a des versions antagonistes. C'est très intéressant parce que on voit un autre monde émerger d'une économie distribuée qui est vraiment sur des principes de logiciel libre, très originaux.
C'est vraiment très intéressant. Moi, je suis assez anti-Bitcoin, comme je le dis assez souvent, parce que c'est une monnaie déflationniste, etc. Mais il y a plein d'autres projets qui ont repris un peu ces principes. On a souvent parlé de la blockchain, qui était ce système de validation déconcentré, mais qui permet de savoir qui a fait quoi, etc. Disons que c'était un principe très fort et qu'elle est au-delà de la question de cette monnaie.
C'est quasiment aussi fort qu'un acte notarial au niveau monde.
Il y a même des détournements où aujourd'hui on peut publier des actes, justement, vérifiés un peu comme un notaire, directement dans la blockchain, et comme ça on peut récupérer des morceaux de code source ou des actes de vente ou autre. Il y a eu des idées assez, assez intéressantes sur le sujet.
Voilà, donc du coup, peut-être qu'il y a une sorte de renouveau ou en tout cas de point de pivotement sur le logiciel libre et qu'il va peut-être y avoir des choses passionnantes qui vont se dérouler dans les années à venir à partir de là. Quoi.
Remarquons, et ça c'est génial, le Bitcoin c'est une innovation incroyable qui est faite dans le logiciel libre. Donc on peut applaudir parce que souvent on met en avant que le logiciel libre, l'innovation c'est pas toujours facile, mais là c'est quelque chose de très fort.
JDLI, l'Inde passe à Linux, un article de Nicolas Boudier Duclois.
Voilà, donc là, c'est dans la foulée du passage à LibreOffice pour les militaires. C'est donc la distribution BOSS, Bharat Operating System Solution, qui serait développée par l'Inde pour faire un vrai système Linux étatique. Et donc, comme ça, c'est super bien et ça montre que si on a de la bonne volonté, on peut y arriver.
Donc la plus grosse démocratie du monde, le pays avec la plus grande population. Bharat, je ne savais pas, ça veut dire Inde, et ça a l'air d'être une distribution basée sur Debian. Bravo Debian.
Et bravo les Indiens, on va voir ce que ça donne, mais effectivement, si on se retrouve avec 1 milliard d'utilisateurs sur une distrib, ça va commencer à peser son poids. Bon, on verra bien ce que ça donne, et ça fait partie de ces distributions nationales. Il y a eu plusieurs projets qui ont été menés à droite à gauche, et il semblerait que celui-là poursuive son bonhomme de chemin et qu'il y ait vraiment de l'ambition politique derrière. La Gazette.fr, École numérique, les questions à se poser avant d'investir, un article de Sophie Maréchal.
Un article un peu long aussi, avec pas mal de pages, qui refait le point en fait sur l'informatique dans les écoles aujourd'hui, avec, on a vu passer des tablettes qui arrivent, qui débarquent, avec malheureusement du logiciel privateur dessus. Comment est-ce qu'on allait apporter l'informatique dans l'école, parce qu'aujourd'hui, les Français sont malheureusement très à la traîne sur le sujet. Voilà, ça fait vraiment le point sur un peu tout ce qui se passe dans le domaine.
Un article intéressant et de fond. On sait que ce sont les communes qui financent les écoles primaires. Donc si vous êtes impliqué dans ce genre de choses, parce que vous avez pas mal des activités dans votre politique locale, ce genre de choses, un article à vous recommander pour comprendre un petit peu comment ça marche, quelles sont les bonnes questions à se poser. C'est une ressource tout à fait intéressante. Next Impact, la gratuité, c'est le vol à réaction, un article de Marc Ress. Donc c'est un article sur une tribune qui a été rédigée par Richard Malka, qui est un avocat en droit de la presse, et qui en gros défend ses clients, et qui explique que voilà, la gratuité, c'est le vol, et il explique ça dans un petit livre qu'il distribue.
Gratuitement, voilà.
Il est très fort. Ouais. Et donc, alors c'est quoi ces arguments?
Bah en fait, c'est les arguments qu'on a déjà entendus depuis très longtemps, hein. C'est en gros, toute la culture du gratuit va tuer l'économie du livre, de l'industrie culturelle en général, que faut taper sur les grands méchants pirates qui téléchargent gratuitement, etc. Donc bah voilà, c'est les bons vieux poncifs qu'on entend depuis très longtemps, et c'est un peu le champ du cygne pour l'industrie du numérique.
Oui, alors c'est l'autre pendant, c'est que l'industrie de l'édition en France marche super bien d'après lui, en tout cas ça ne baisse pas au niveau du chiffre d'affaires.
Oui, c'est stabilisé.
C'est stabilisé, donc il a l'air d'être très content, et
c'est
en
ce
gros,
qu'il dit, en tout cas, oui.
Et c'est ce qu'il dit, et en gros, surtout n'y touchez pas, ne remettez pas en cause le droit d'auteur, parce que les maisons d'édition françaises, elles voient d'un mauvais ce qui est en train de se passer au niveau de l'Europe, notamment les différents rapports Julia Reda sur les évolutions du droit d'auteur pour essayer d'uniformiser tout ça, d'homogénéiser tout ça au niveau de l'Europe, de faire un marché commun de l'édition, donc des choses qui nous plaisent, qui nous intéressent, sans DRM, avec un droit d'auteur où on a des exceptions plus intéressantes. Et bien là, non, ils sont vraiment contre et archi contre. Ne changez rien à rien, on ne veut pas bouger.
Effectivement, mais en fait, ils veulent quand même bouger un petit peu parce qu'il y a quand même cette idée que le fait que les particuliers puissent échanger des livres, ça, il est contre, hein, ça devrait pas être autorisé. Les bibliothèques municipales, il aime pas trop ça non plus. Il y a plein de choses hein, qui lui déplaisent fortement. Donc il y a évidemment des réactions. La quadrature du net lui a mis quelques claques selon ce que dit l'article. Il y a une chose qui moi m'embête un petit peu. Ils disent qu'en fait ils restent fixés sur un monde assez ancien. Et c'est une idée qui est fausse et qui est un peu dangereuse parce que je pense que ce sont des gens et c'était pareil dans la musique, tous ces trucs où on met des DRM dans tous les coins, c'est qu'ils savent parfaitement que ça va changer. Ils ont fini par comprendre comment marche le numérique et ils veulent mettre des DRM partout pour récupérer tous les gains du numérique. Et donc, ils sont en train d'essayer de défendre un vieux modèle, mais tout en mettant un nouveau modèle derrière avec des fichiers avec DRM qui retirent la propriété de la copie, c'est-à-dire qu'on n'est plus propriétaire de sa copie.
On est loueur, hein, à la limite.
Voilà, on n'a pas le droit de la revendre, on n'a pas le droit de la donner, on ne peut pas en faire cadeau, etc. Et ça, c'est une vraie évolution. Et quelqu'un le dit, je crois que c'est Calimax, si je ne me trompe pas, mais quelqu'un est cité dans l'article et qui dit, mais qui est le voleur dans ce cas-là? À partir du moment où j'ai des droits et que soudainement je les ai plus, je me suis fait dépouiller de quelque chose. Stéphane Bortzmeyer.
Ah non, ça c'était pour faire une remarque, il utilisait aussi WordPress qui était gratuit.
Oui. Donc effectivement, Stéphane Bortzmeyer s'est fendu d'un petit tweet qui dit « La gratuité, c'est le vol, mais on se fait héberger sur un WordPress, logiciel libre, entre parenthèses, et gratuit, auteur en danger, etc. » Et également, actualité qu'on cite parfois dans la revue de presse de l'April, hein, qui est un magazine sur Internet très engagé, vraiment contre le DRM, mais qui parle de littérature en général et pas uniquement de nos sujets. « Les auteurs sont-ils ceux qui ont le plus à craindre du partage et de la gratuité? Les industries culturelles, pour défendre leur intérêt et leur modèle économique, se cachent-elles derrière la protection des auteurs de façon plus ou moins légitime ?» Point d'interrogation à chaque fois. J'ai du mal à faire les phrases interrogatives. Mais c'est vrai que voilà, ça pose la problématique. Malheureusement, il semblerait que le ministère ait déjà commencé à réagir à ce coup de lobbying.
Bon, sur ce et sur cette grosse revue de presse, hein, je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine.
Bah, bonne semaine à tous.
Salut tout le monde.
C'était la revue de presse de l'Association pour la promotion et la recherche en informatique libre, l'April, proposée par Emmanuel Charpentier, Luc Fievet et Nicolas Vinault.